autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, chers amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour.
Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Philippe Pajot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Ensemble, nous allons remonter le temps pour écrire une nouvelle histoire de notre Voie lactée, partir sur les traces du plus lointain astéroïde ultimatulé, l'ancêtre de nos planètes, nous interroger aussi sur notre mémoire humaine qui fonctionne si bien quand nous dormons, et nous intéresser enfin au fonctionnement de notre microbiote et des centaines de milliers d'espèces de bactéries qui nous constituent. Nous ne sommes pas seuls autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Bienvenue. On commence par un petit coup de chapeau à la mathématicienne américaine Karen Uhlenbeck de l'université de Princeton, la première femme à obtenir le prix Abel, équivalent du prix Nobel de mathématiques. Ses travaux fondamentaux ont révolutionné le paysage mathématique et nourri la physique quantique. Elle est enfin reconnue. Une reconnaissance pour le moins tardive, Philippe Pajot.
Oui, c'est lent, hein, tous ces prix pour les mathématiciennes. Je rappelle que la médaille Fields, hein, qui est donc la première... a été donnée en 1936. La première femme à recevoir la médaille Fields, c'était en 2014, Myriam Marzarani, disparue il y a peu de temps. Et là, le prix Abel qui a été fondé, créé il y a 15 ans, ça n'arrive qu'aujourd'hui, alors que c'est des travaux qu'elle avait faits dans les années 70.
Et en quoi ces travaux sont révolutionnaires pour les mathématiciens comme pour les physiciens,
hein? Alors sa grande force, c'est d'être fondamentalement une analyste, c'est-à-dire qu'elle aime bien les inégalités, elle aime bien traiter les petites, voilà, les petites inégalités, couper les epsilon en quatre, disent les mathématiciens. Et avec ses outils d'analyse, elle s'intéresse à des objets géométriques. Et c'est ça qui est assez original dans son approche et qui lui a permis d'être une pionnière, effectivement. Qui a renversé complètement l'approche de la géométrie en utilisant des outils d'analyse.
Alors on sort enfin de cet effet Mathilda, comme on dit, hein, de l'oubli des femmes scientifiques au profit de leur homologue masculin, Carole Châtelain, avec ce prix Abel. On n'a pas tellement parlé décerné à Karen Uhlenbeck.
Mais oui, on n'a pas beaucoup parlé d'elle quand même. C'est un prix qui a été décerné à des mathématiciens de très grand renom, évidemment tous masculins. Mais elle est pionnière, parce qu'elle a été également la première femme à avoir été une mathématicienne à l'Académie des sciences. Hein, c'était américaine, c'était dans les années 80. Et puis, à pouvoir faire un exposé en plénière, une conférence internationale de mathématiciens, et ça c'était en 90, on croit rêver, parce que évidemment les femmes mathématiciennes sont évidemment aussi douées et aussi importantes dans les recherches que leurs homologues masculins.
Bon, c'est le meilleur que l'on puisse se souhaiter, qu'elle ne soit pas, puisqu'elle est une première et une pionnière, qu'elle ne soit pas la dernière. Alors l'autre info du mois, c'est la découverte de fossiles datant précisément du jour de la chute de l'astéroïde géant qui a frappé la Terre il y a 66 millions d'années, provoquant la fin du règne des dinosaures. Le paléontologue américain Robert De Palma et son équipe ont publié dans une prestigieuse revue scientifique leur étude de ces fossiles comme figés, qui permettrait de décrire les minutes ayant suivi un des événements les plus marquants de l'histoire de la planète. C'est une vraie info, c'est une incroyable découverte. Il y a peut-être un peu d'intox sur les dates. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Hénarejos?
Non, ça a l'air intéressant, surtout ce que ça peut nous apprendre, parce que dans les strates qui ont été étudiées, on voit un mélange de matériaux météoritiques, de faune marine, et tout ça s'est mélangé, et ça apprend au moins une chose, c'est que, enfin, on aurait pu s'en douter, mais l'impact a créé un séisme qui s'est ressenti très au-delà de la zone de l'impact, et que ça a eu des effets. On s'attend évidemment, quand il y a un gros astéroïde comme ça qui tombe dans une zone maritime, à ce qu'il y ait un énorme tsunami. Ça a peut-être été le cas, mais là on voit une photo de ce qui s'est passé avant que le tsunami, si jamais il a eu lieu, n'ait atteint cette zone. Et là on s'aperçoit qu'il y a quand même eu aussi une espèce de vague, mais due au séisme, toute la Terre a été secouée véritablement
par cet astéroïde.
Donc ça change un peu la vision qu'on a de l'impact lui-même, peut-être qu'à partir de là, on va commencer à réfléchir autrement et à mieux comprendre ce qui se passe quand un gros astéroïde frappe la Terre.
Ça permet d'apprendre quoi, Carole Chatin? De réfléchir autrement?
Mais en l'occurrence, c'est une étude géologique qui a été réalisée et non pas biologique. On attend avec impatience des résultats biologiques parce que ce qui a été découvert, c'est des animaux qui ont été saisis à l'instant de leur mort. C'est absolument extraordinaire. Du coup, il y a des espèces nouvelles qui n'ont donc pas été décrites par cette étude. C'est un travail qui reste à faire. Mais il y a donc des trésors encore à attendre de cette découverte qui a eu lieu à 3000 km au nord de l'impact de l'astéroïde.
Au Mexique, toujours, on attend les résultats avec impatience autour de ces nouvelles espèces qui existaient à l'époque des dinosaures, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On va maintenant s'intéresser avec vous, Philippe Hénarejos, à un autre astéroïde, moins menaçant, bien plus étonnant et lointain, Ultima Thule, visité par la sonde New Horizon, et qui fait la une de Ciel et Espace. Rappel des faits.
Pendant que d'autres faisaient le décompte de la nouvelle année, à la NASA, on égrenait les secondes séparant la sonde New Horizon de son objectif Ultima Thule. Après avoir parcouru 6,4 milliards de kilomètres, la sonde partie de la Terre il y a plus de 12 ans survole aujourd'hui l'objet céleste le plus éloigné de notre planète jamais visité. Ultima Thule, un gros rocher de 45 km de diamètre, a été photographié pour la première fois en 2014. Il est situé dans ce que l'on appelle la ceinture de Kuiper, la limite extrême de notre système solaire.
Philippe Hénarejos, Ultima Thule, véritable relique de 4,5 milliards d'années, fait la une de Ciel et Espace. Ce petit corps qui ressemble à rien de connu pourrait bien être l'ancêtre de nos planètes.
Oui, alors il y a, vous savez, la sonde a survolé cet astéroïde lointain à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre. C'est 43 fois la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil, donc c'était au 1er janvier, au tout début de l'année. Les données ne sont pas encore toutes arrivées, c'est-à-dire que c'est quand même très loin, il y a une antenne qui, vu la distance, est petite sur la sonde, et donc ça arrive par petits paquets. Alors, nous publions en couverture la meilleure photo qu'on ait eue,
nous avons
tous les documents qu'on a pu avoir avant le bouclage, mais il va encore y avoir d'autres informations. Ceci dit, déjà, avec ces premières photos, les responsables de la mission que notre journaliste Jean-Luc Dauvergne a rencontré, il était là-bas le soir du 31 décembre, il a passé le réveillon au centre de contrôle de la mission. Les spécialistes ont déjà assez d'informations pour voir si leur théorie cadre avec cet astéroïde, cet astéroïde leur apprend des choses, et c'est déjà le cas. Alors, on est encore dans le domaine de beaucoup d'hypothèses, il va falloir donc attendre encore de nombreux mois, peut-être des années pour des publications scientifiques.
Ah oui, des années pour avoir et les résultats et pour les étudier.
Voilà, et pour les étudier, mais déjà, ils ont des pistes. Et il semblerait, c'est l'angle que nous avons pris pour faire le titre de la couverture, c'est l'ancêtre des planètes, qu'ils sont à peu près d'accord sur un point, c'est que cet objet qui se trouve là, très loin, il est dans l'état où il était il y a environ 4 milliards et demi d'années.
Il n'a pas bougé depuis.
Voilà, on a l'habitude de dire que quand on va voir un astéroïde, vous savez, les astéroïdes de la ceinture principale qui se trouvent entre Mars et Jupiter sont des reliques du système solaire. Certes, c'est vrai, mais ils ont été cabossés, ils ont pris plein d'impact. Certains sont des fragments de corps plus gros, d'autres sont primitifs, mais ils ont quand même été frottés aux autres. Là, on se retrouve dans une zone du système solaire où, d'après les modèles, il devait rester quelques astéroïdes comme ça, intacts, depuis la création d'avant les planètes, depuis la création des planètes, en fait, 4 milliards et demi d'années. Et en survolant et en voyant la première image, les scientifiques sont convaincus qu'ils ont là un de ces rares représentants de cette population épargnée par tous les impacts.
Et pourquoi ils en sont convaincus? Parce que c'est sa forme? Parce qu'il
sa
est
forme,
étrange parce
alors
que...
il est assez doux, si vous voulez. Il y a très peu d'impacts récents. Les trous qu'il voit dessus, alors quand on a l'habitude de regarder des photos de corps célestes, on se dit, bon, c'est des cratères d'impact. Et en fait, c'est pas si sûr. Ils discutent entre eux. Ça pourrait être d'autres sortes de trous. Rappelez-vous la comète Churyumov-Gerasimenko qui avait été survolée et étudiée longuement par Rosetta, la sonde européenne. Il y avait aussi des trous à bord, des espèces de puits bizarres. C'était pas des cratères d'impact, c'était des puits d'où les glaces fondaient et émettaient la chevelure de la comète. Donc il y a plein de débats entre les scientifiques pour dire attention, tous ces trous ne sont peut-être pas des cratères d'impact. Ça nous raconte peut-être la formation et l'évolution de cet astre qui, de toute manière, a été peu impacté. Et ils en veulent pour preuve, vous savez, c'est un espèce de bonhomme de neige. Hein. Vous avez,
oui, il y a une grosse boule, voilà, et une plus petite boule.
Ça fait 31 km de long, et puis il y a 19 et puis 14 km. Il y a deux boules collées l'une à l'autre gentiment. Et le fait qu'elles se soient collées l'une à l'autre gentiment et qu'elles n'aient pas été décollées depuis cette époque lointaine.
Depuis 4,5 milliards d'années.
Voilà, c'est la preuve que. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de remue-ménage dans le coin. Donc, on a là, vraiment, un objet qui a été formé après le Soleil, ou en même temps que le Soleil, et qui n'a pas servi à former les planètes. Alors, voilà, les données qu'on attend, c'est des spectres, différentes mesures de densité, etc., que la sonde envoie petit à petit et que les scientifiques vont dépouiller. Mais en tout cas, on a déjà fait un dossier complet pour vous dire où c'est, qu'est-ce que c'est que cet objet, et surtout quelles sont déjà les questions et les pistes de réflexion des scientifiques.
Que se posent les scientifiques, en tout cas je le succède, hein, pour la sonde New Horizon de la NASA. Pour en savoir plus donc sur cet ancêtre possible de nos planètes, l'astéroïde Ultima Thule, visité par la sonde New Horizon, c'est à lire dans Ciel et Espace de ces mois de mars-avril, et puis c'est à écouter tout de suite sur RFI. New Horizon, mix Ultima Thule, signé Brian May, cofondateur de Queen, qui est aussi astrophysicien. Horizon, Ultima Thule Mix, signé Brian May, le guitariste de Queen et aussi astrophysicien. Tout arrive sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans notre galaxie et comment les données recueillies par le satellite européen Gaïa nous dévoilent une autre histoire de notre Voie lactée, c'est le dossier de la recherche de ce mois d'avril.
Un sombre labyrinthe. C'est ainsi que le savant italien Galilée qualifiait le manteau d'étoiles dans lequel se perdent les astronomes depuis la nuit des temps. Mais pour ne pas s'y perdre justement, les astronomes européens ont tout mis en œuvre pour cartographier les étoiles. Autrement dit, définir précisément la position de chaque astre dans le ciel ainsi que sa luminosité. Et voilà l'arme fatale pour ce travail de cartographie. Le tout nouveau satellite Gaïa de l'ESA, l'Agence spatiale européenne.
Philippe Pajot, c'est le grand dossier de la recherche ce mois-ci. Comment les nombreuses mesures très précises de la position et du déplacement des étoiles recueillies par Gaïa, le dernier né des satellites européens, déroulent finalement une autre histoire, une nouvelle histoire de la Voie lactée?
Oui, parce que c'est vrai que... Alors, d'abord, c'est amusant le son que vous avez passé avant, parce que Gaïa disait qu'on se perd dans la Voie lactée. Alors aujourd'hui, grâce à Gaïa, on s'y perd un peu moins, mais on s'y perd aussi encore, parce que justement, la quantité de données que Gaïa a fournie est quand même 10 000 fois supérieure à ce qu'avaient apporté les précédents instruments, apporte une foule de données qui rendent des choses complexes, mais qui permettent quand même de dire des choses.
Alors, rappelons que la Voie lactée, c'est notre galaxie.
Alors
hein.
Voilà, pour donner, on repart là-dessus, quand vous regardez le ciel par une nuit quand même assez sombre. Vous voyez effectivement une sorte de traînée qui traverse le ciel, une traînée blanche, blanchâtre, la Voie lactée, notre galaxie. Et en fait, ce que vous voyez, cette traînée, c'est la trace de cette galaxie à l'intérieur de laquelle nous sommes. Donc c'est assez difficile de se rendre compte à quoi elle ressemble. D'ailleurs, ça a été extrêmement long de se rendre compte que c'était un objet tel que je vais définir là. On pensait effectivement que peut-être il n'y avait pas de galaxie, mais donc on est à l'intérieur. Alors pourquoi on voit une trace comme ça? Alors moi je prends toujours une image assez simple. Il faut imaginer que les étoiles, ce sont des grains de farine, et que vous êtes, la galaxie c'est une galette, et vous êtes donc des grains de farine dans la galette. Et évidemment, si vous regardez dans la direction de la tranche de la galette, vous allez voir beaucoup de grains de farine, beaucoup d'étoiles.
Et, oui,
et si donc... vous regardez à côté, vous allez voir également des grains de farine, mais beaucoup moins, parce que l'épaisseur de la galette est bien moindre. Et c'est exactement ce qui se passe.
C'est pour ça qu'on voit qu'un disque, en fait.
On voit une sorte de trace lumineuse qui est cette galette. Et ça a été extrêmement dur de long à savoir. Parce que lorsqu'on regarde les étoiles, on en voit à peu près un millier, quelques milliers à la une, disons, typiquement. Après, avec des satellites, on arrivait à en voir des millions. Et justement, ce qu'a fait Gaïa, c'est qu'il a réussi à mesurer 1 milliard d'étoiles. Alors 1 milliard d'étoiles, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais ça reste quand même très petit par rapport à ce que représente le nombre d'étoiles de la galaxie, qui est de 200 milliards à peu près.
200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, dans la Voie lactée.
Donc on est à peine à 1%, on va arriver sans doute à la fin du catalogue l'année prochaine, quand toutes les données ont été recueillies, à 1% des étoiles de la galaxie.
Alors, déjà 1%, c'est énorme, mais qu'est-ce que ça nous dit?
Alors ce que ça fait d'abord, Gaïa, c'est que ça mesure extrêmement précisément la distance des étoiles. C'est très important de savoir où elles sont, parce que lorsque vous regardez le ciel, vous n'avez pas cette notion de distance. Et donc c'est l'élément fondamental, c'est de connaître la distance. Et donc pour ça, il utilise un procédé qu'on appelle la parallaxe, qui est très facile. Vous bouchez un œil, vous bouchez l'autre œil, et vous regardez un objet au loin, vous allez voir que l'objet semble avoir bougé. Et simplement, ensuite, par triangulation, vous pouvez en déduire la distance de l'objet.
Et c'est ce que fait le satellite Gaïa.
C'est exactement ce que fait le satellite Gaïa, mais de manière extrêmement précise, et pour, disons, quasiment 1 milliard, ce sera sans doute 2 milliards d'étoiles à la fin. Et ça permet de reconstruire, effectivement, cette forme à laquelle, qu'on ne voit pas, hein, mais simplement cette forme. Et non seulement cette forme, mais en plus... Gaïa mesure la vitesse des étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, les étoiles sont pas, voilà, elles paraissent fixes dans le ciel, mais en fait, elles ont un petit mouvement qui est un mouvement d'ensemble de la galaxie. Et comme Gaïa surveille ces étoiles pendant un temps relativement long, on arrive à voir un mouvement propre des étoiles. Et donc, du coup, non seulement reconstituer la forme, mais également reconstituer l'histoire de la galaxie, ce qu'on appelle l'archéologie galactique, à remonter le temps et savoir ce qui s'est passé, notamment ce qu'a découvert Gaïa, c'est qu'il y a eu des collisions extrêmement, extrêmement fortes il y a 1 milliard d'années, par exemple, il y a eu plusieurs collisions, qu'il y a des migrations, c'est-à-dire que les étoiles ne sont pas nées là où on les voit aujourd'hui. Par exemple, autour du Soleil, on voit les étoiles plus jeunes ou plus vieilles, qui ont des compositions très différentes. Et ça s'explique que si simplement les étoiles ont migré, elles sont ailleurs dans la galaxie et qu'elles sont venues jusqu'ici. Donc il y a une histoire extrêmement complexe de la galaxie qui est plus complexe, avec ses migrations, avec des chocs. Et en fait, on a interrogé notamment Nicolas Pranzos, qui est spécialiste de la chimie galactique, et lui nous disait, c'est vrai que c'est pour ça que je reviens à cette... on s'y perd un peu, c'est qu'au départ, une galaxie, c'était un objet extrêmement simple. Quand on regarde une galaxie lointaine, c'est juste un point. Et puis à mesure qu'on a eu des données de plus en plus précises, on s'est aperçu qu'il y avait un disque, une forme spirale, du gaz, du champ magnétique... Du rayonnement gamma, du rayonnement de haute énergie, des poussières. Et là, on s'aperçoit qu'il y a non seulement un disque, mais un deuxième disque avec une épaisseur différente, qu'il y a des bulles à haute énergie, des bulles chaudes de gaz qui sont de part et d'autre de la galaxie. Tout ça dessine une histoire extrêmement, extrêmement complexe, extrêmement compliquée, que je ne pense que les astronomes ne sont pas encore complètement dénoués. Enfin, il faudra sans doute attendre.
Mais pour le moment, c'est vraiment des données, des mesures. On avance un peu, mais dans le noir.
On a des éléments. Gaïa, c'est absolument impressionnant. Toutes les semaines, hein, Philippe le verra, toutes les semaines, il y a des articles qui sont basés, découverts, qui sont basés sur les données de Gaïa. C'est extraordinaire. Mais il y en a tellement que ça part un peu dans tous les sens. Et je pense qu'il faudra encore quelques... années, voire quelques décennies, pour que tout ça retombe et qu'on
pour
se fasse...
déchiffrer les données et puis que ça donne vraiment une histoire. En tout cas, comment Gaïa commence donc à dérouler une nouvelle histoire de la Voie lactée, c'est le dossier de la recherche de ce mois d'avril, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, Avis aux amateurs. On plonge maintenant dans la mémoire, dans les exploits de la mémoire qui se cultive aussi en dormant. On vous explique ça après un petit détour dans la mémoire du regretté Mano Solo sur RFI.
des trucs dans ma mémoire, des grands trous noirs, de sales histoires, des trucs en carton plié qu'un jour on finira par oublier. Et des trucs dans ma mémoire depuis que je t'ai vu qui percent dans le noir. Une grande lumière entre dans mon souvenir qui se remplit de ton sourire. J'ai dans la tête l'image de toi gravée mille fois, qui fait sursauter mon cœur de joie. Ça marche à tous les coups, même si j'ai la mémoire pleine de croisades, de portes ouvertes et de barricades. Y'a des trucs dans ma mémoire depuis que je t'ai vu qu'ont disparu, leur importance, leur souffrance imbécile. Il ne reste que la douceur des élans de ton cœur. Dans ma mémoire, y'a pas que des histoires pourries, que des histoires d'ennui. Y'a pas que des statues qui pleurent, y'a pas que des erreurs pour toujours. Y'a pas que des frayeurs dans ma mémoire. Y'a nos histoires, celles qu'on a eues là juste hier. Toutes nos histoires de toi et moi, celles qui repartent chaque matin là comme aujourd'hui. Là c'est reparti dans ma mémoire, là c'est juste pour moi que...
Dans la mémoire de Mano Solo sur RFI, autour de la question des exploits de la mémoire, c'est le dossier de Science et Avenir, Carole Châtelain, qui nous réserve pas mal de surprises et de bien douces nuits, voire même des siestes. Explication après cet extrait du magazine Xenius d'Arte consacré précisément à la mémoire et au sommeil.
Chaque jour, notre cerveau traite un nombre incalculable de signaux. Chaque image, chaque événement est transformé en impulsion par les cellules nerveuses. Si nous voulons nous souvenir longtemps de ce que nous vivons pendant la journée, nous devons transférer les informations dans la mémoire à long terme. Quel rôle joue le sommeil dans cette mémoire ?
Un très grand rôle, Carole Châtelain, à découvrir dans ce dossier donc de Science et Avenir consacré aux exploits de la mémoire qui se cultive notamment en dormant.
Alors oui, nous avons tous fait ce rêve de, d'ailleurs, de pouvoir apprendre en dormant. Et c'est là-dessus que nous consacrons ce dossier qui a été écrit par notre journaliste Elena Sander, qui est une spécialiste de neurosciences, puisqu'il y a une équipe suisse qui a réussi un véritable exploit, c'est d'arriver effectivement à nous faire apprendre en dormant.
Génial.
Alors qu'on pensait que finalement ce n'était qu'un rêve, qu'une utopie. Mais oui, non, c'est possible.
On savait que le sommeil consolidait la mémoire.
On sait que le sommeil consolide la mémoire. On connaît très bien désormais les mécanismes. Comment est-ce qu'un stimuli visuel et auditif s'inscrit dans notre cerveau, par quel mécanisme il finit par s'inscrire dans l'hippocampe, qui est une petite partie de notre cerveau limbique. Et puis comment tous ces souvenirs s'encodent. Il faut effectivement dormir pour que le cerveau puisse faire ce tri, tresser de nouveaux réseaux, etc. Mais on ne savait pas qu'on pouvait quand même apprendre en dormant. Alors, on n'apprend pas le chinois que tout le monde
en dormant. Il ne suffit pas de se passer une cassette dans les oreilles pour parler chinois le lendemain matin.
On se souvient qu'on mettait des cassettes sous l'oreiller avec l'espoir de pouvoir apprendre son espagnol ou son anglais pour les examens du lendemain. C'est pas tout à fait ça. Mais il faut se souvenir que lorsqu'on dort, nous faisons à peu près 5 cycles de 90 minutes qui va de l'éveil au sommeil lent profond. C'est des cycles qui se répètent. Et les chercheurs suisses ont réussi à travailler des impulsions pendant les périodes de sommeil lent profond. C'est comme si des fenêtres s'ouvraient, où là, il était possible de faire quelque chose et d'engrammer, pour utiliser un mot un petit peu compliqué, de nouvelles informations. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ?
C'est vraiment quand le sommeil est le plus profond.
C'est quand le sommeil est le plus profond. Donc, c'est des instants extrêmement brefs pour pouvoir insérer une information. Alors, ils ont réussi un exploit, c'est-à-dire que pendant ces pays, ils ont pris des volontaires qu'ils ont fait dormir, ils les ont équipés de casques qu'on appelle EEG qui enregistrent les ondes cérébrales, et puis quand ils détectaient les moments de sommeil lent profond, ils menaient leurs expériences, c'est-à-dire qu'ils envoyaient à ce moment-là deux sons. Un son avec des mots inventés, inconnus, genre Topher ou genre Gouga, voilà, des mots qui ne veulent rien dire, et puis ils envoyaient aussi comme impulsion la traduction, soi-disant la traduction de ces mots. Alors ça pouvait faire Guga, clé, et puis Topher, éléphant.
D'accord.
Et puis la personne dormait et au matin, au réveil, on l'interrogeait. On lui répétait le mot inconnu et on disait Guga ou Topher. Et on lui demandait si, à son avis, Guga ou Topher, on pouvait ranger ces mots dans une boîte à chaussures. On disait pas, on donnait pas la traduction.
Oui, oui.
Et la personne était capable de dire, ah ben Guga, oui, je la rentre dans une boîte à chaussures, mais Topher, non, je peux pas. Parce que, souvenez-vous, Topher, ça veut dire éléphant, et Guga, ça voulait dire clé.
D'accord. Donc, ah oui, non, parce que moi, j'avais déjà oublié encore en mémoire.
Donc, une information nouvelle est bien rentrée dans le souvenir et dans la mémoire la nuit. Voilà, c'est ce qu'on réussit à démontrer. Alors, pour l'instant,
c'est inconsciemment, mais c'est quand même assez étonnant.
C'est énorme découverte, même si pour l'instant, les applications pratiques ne sont pas encore très évidentes. Mais on s'aperçoit donc qu'il est possible de pouvoir insérer des informations.
Alors, c'est génial, en même temps, ça peut presque être effrayant, parce qu'au fond, on se dit quelqu'un qui saura exactement. Enfin, on peut vous insérer de nouveaux souvenirs. Il y a vraiment des périodes où on peut.
On peut effectivement tout imaginer, et la science-fiction risque bien de s'emparer.
Eh ben oui, on s'en doute.
De s'emparer de tout cela. Mais notre dossier ne se consacre pas qu'au sommeil, puisque on donne également beaucoup d'astuces aux gens comme vous et moi, j'imagine, qui tous les matins cherchons nos clés, justement, ou. voilà, ou un mot, ou un nom de famille. Et donc, nous avons travaillé avec le champion de France de la mémoire, qui s'appelle Sébastien Martinez.
Et qui vous donne des trucs.
Et qui nous donne ses astuces, parce que ces champions de la mémoire ne sont pas tous doués, ne sont pas nés avec tous une capacité particulière. Simplement, ils l'ont travaillé. Et ça passe par des techniques qui sont généralement des techniques de visualisation, puisque la façon de mémoriser est meilleure quand on arrive à s'imaginer des histoires. Ce sont les techniques qu'on appelle notamment les palais de la mémoire.
Oui, les palais de la mémoire, voilà. Où se représentent en forme de pièces ou de voyager.
C'est ça, on place les informations qu'on veut retenir dans un paysage, on monte une histoire, généralement insolite, pour s'en souvenir. On place les mots que l'on recherche dans cette histoire, et après, lorsqu'on doit les rappeler à sa mémoire, on se souvient de l'histoire. Et les mots reviennent tout à fait spontanément. C'est une des techniques, on en donne une dizaine d'autres.
Et puis, étonnant aussi, à lire dans ce dossier, c'est que les mémoires peuvent, comment dire, traverser les générations, enfin que les événements marquants peuvent aussi être génétiquement codés. Et donc,
c'est ça, puisque en fait, un souvenir, c'est une information qui va passer dans un neurone, et pour que le neurone réagisse, eh bien il va se transformer, il va changer sa forme et il va produire des enzymes. Et c'est ça qui permet au signal et à l'information de revenir à la mémoire et d'être utile. Et à chaque fois qu'il y a ces productions d'enzymes particulières, il y a une modification de ce qu'on appelle les étiquettes épigénétique. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petites étiquettes qui sont sur nos gènes, qui sont plus ou moins activées chez les uns et chez les autres. Et le fait d'activer ces étiquettes à ces moments-là, eh bien, peut changer la façon dont on s'exprime. Autrement dit, parce que c'est moi qui m'exprime plutôt peu clairement en ce moment.
Mais peut changer un peu la génétique, en fait.
Voilà,
c'est ça, un tout petit
et donc,
peu.
Et ce qui fait que, par exemple, un traumatisme ressenti par une personne peut s'inscrire dans ses gènes, en quelque sorte, par ce changement d'étiquette épigénétique.
Et donc être à la génération suivante.
Transmis éventuellement à la génération suivante.
Pour en savoir plus sur la mémoire, pour la renforcer aussi consciemment, inconsciemment, voire même en dormant, dossier sur les exploits de la mémoire à lire dans Science et Avenir, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner pour vous faire faire de beaux rêves ou des rêves bizarres à l'écoute d'Orelsan et d'Amso sur RFI, Rêves Bizarres.
Ce soir je me mets minable, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais de visage. J'ai pas des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey. J'ai chanté, donc c'est vrai, je mets les pieds dans le respect. J'ai tourné tous les têtes, ta pétasse tournée tous les têtes. Ton bébé n'est qu'une pute, vous m'aimez, mais je m'aime plus. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pourtant je suis toujours là. La méchanceté est gratuite, c'est fou qu'on touche des sous pour ça. Étoile dans les yeux, Shinobi, j'essaye de remplacer Johnny. Pourquoi t'as la tête qui grossit? T'as dû choper une trisomie. Soupe miso, joue l'idiot, sous hypnose, oublie l'eau. J't'ai ménagé
tous les ans, je sais juste être le petit nouveau. Oh, les types te trahissent, reviennent en full détente. Très bonne chance, tes claquettes à ton enterrement. Société bancale, normaux dans la défiance. Je fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Bien sûr, je suis méfiant, ça rajoute plaisante. Juste après avoir avoué ce qu'ils pensent vraiment. Rappelle-toi qui tu snobais quand tu montais. C'est les mêmes que tu croiseras dans la descente. Prends pas la tête avec trop de mots. Ceux qui te stream sont des robots. Mon seul adversaire, c'est le chrono. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'hosto. Je suis mort, éteigne la GoPro. Noir, sale, dumps. Hey, hey,
ce soir je me mets mina. Pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres. Où tu changer de visage? J'ai pas des belles histoires. Je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres. Des trucs ouais. Qui s'expliquent pas hey,
c'est qu'une mise en abîme. De mes péchés morts, mais sans décessor. Toujours pressé d'or dans un déchet de corps. Épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu, être humain anonyme. Short pour m'en sortir, baisse pour pouvoir aimer. Manque d'endorphine, mon cœur veut s'arrêter. Le sale est maritime, car la mer est niquée. Sans dogme et doctrine, croyance divine. Minimum, 0 euro pour beaucoup d'efforts. Beaucoup de mots pour si peu de force. Beaucoup de sissi, ouais, ouais, la famille, on est là. On soutient, nique ta mère et crache sur tes morts. Beaucoup de lâches et de faux négros. Déçus par mes proches, déçus par mes parents, déçus par mes idoles. J'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses.
Si peu de... Les rêves bizarres d'Orelsan et d'Amso sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans les 1 000 milliards de bactéries qui nous composent, ce n'est pas un rêve bizarre, mais une réalité qui entraîne une véritable révolution médicale jusqu'où l'étude de notre microbiote, de toutes ces bactéries qui vivent dans notre ventre, mais pas seulement, va nous entraîner. Réponse à suivre dans Science et Vie, en commençant d'abord par changer de regard sur tous ces micro-organismes qui nous habitent.
Et nous parlons des microbes. Alors les microbes, ça vous évoque plutôt des choses désagréables comme des infections. Et bien pourtant, ces microbes ne sont plus ce qu'on pensait qu'ils étaient.
Les bactéries sont extrêmement respectables. Elles ont à peu près 4 milliards d'années.
En d'autres termes, plus les recherches progressent, plus on pense que dans la grande famille des bactéries, par exemple, eh bien, bon nombre d'entre elles sont bénéfiques et surtout très utiles au bon fonctionnement de notre organisme.
En gros, on ne vit pas dans un monde stérile, quoi.
Pas stérile du tout, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de nous, Caroline Tourbe. La découverte du et des microbiotes entraîne une véritable révolution médicale qui fait la une et le dossier de Science et Vie.
Oui, 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 le microbiote, c'est un mot qu'on commence tous à connaître un peu. C'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu utiliser le mot microbiote aussi facilement. Maintenant, on a l'impression que les gens, ils ont compris que le microbiote, c'est toute cette foule de microbes qui vit à l'intérieur de nous, dans notre corps. Le microbiote le plus connu, c'est celui qui est dans nos intestins.
Et qui est le plus énorme, si
vous voulez. Énorme, qui est le plus étudié, c'est pour ça qu'il est le plus connu. C'est quelque chose, c'est une histoire qui est assez récente et ancienne à la fois. C'est-à-dire qu'on a toujours su qu'il y avait des bactéries dans nos intestins, mais au fond, on ne s'y intéressait pas trop. On avait plutôt l'impression que c'était des bactéries qui menaient leur vie bien distincte de la nôtre. Plus les recherches ont été menées depuis le début des années 2000, fin des années 90, plus on a commencé à caractériser ces bactéries, à comprendre comment elles fonctionnaient, plus on s'est aperçu qu'elles vivaient non pas en nous, mais avec nous et nous avec elles, et que cette interconnexion, cette symbiose, elle avait des conséquences sur notre santé, sur l'équilibre général des fonctions de notre corps. Et la nouvelle révolution à laquelle on fait face actuellement, ou plutôt dont on va bénéficier, c'est que grâce à ces connaissances fondamentales, qui sont acquises depuis une bonne décennie maintenant, on en arrive à la mise en pratique et à l'utilisation de ce qu'on a compris des bactéries et de la relation qu'elles ont avec notre corps pour se soigner quand le corps déraille, le corps débloque, et pour des maladies extrêmement différentes.
Par exemple, pour quelles maladies? Parce qu'on a bien compris, aujourd'hui on sait que ces bactéries nous maintiennent en bonne santé, mais de quelles maladies pourrait-on peut-être traiter grâce à ces bactéries, grâce à nos différents microbiotes?
L'éventail est extrêmement large, ça paraît même assez incroyable, mais pourtant c'est vrai qu'il y a des recherches, beaucoup, qui sont menées, des essais cliniques, donc sur des patients déjà malades. Ça va du cancer, c'est vrai qu'on s'intéresse au rôle des bactéries dans le traitement du cancer, alors pas forcément pour soigner directement le cancer, mais plutôt pour être des alliés des traitements contre le cancer.
Pour soutenir les traitements.
Exactement, on s'aperçoit que quand on donne un traitement, une immunothérapie, ou une chimiothérapie, son efficacité, elle est beaucoup liée à la santé de son microbiote intestinal, parce que c'est aussi par là que ça peut passer. Et dans ce cas-là, on arrive à sélectionner ou aider, renforcer le microbiote et à renforcer énormément l'action des traitements contre le cancer.
On va même jusqu'à la transplantation aujourd'hui de microbiote.
Transplantation microbiote. Ça consiste en fait à avoir un donneur dont on va utiliser les fesses, et on va prendre ces bactéries et les donner à quelqu'un qui est malade.
Paraît dégoûtant et ça peut le sauver.
Ça paraît dégoûtant. C'est une méthode aussi très ancienne. La médecine chinoise avait la réputation d'utiliser ce qu'ils appelaient une soupe jaune. Et la soupe jaune, en fait, c'était juste ça. C'était une soupe fabriquée à partir de...
Comment transférer les bonnes bactéries.
Exactement. Donc c'est une vieille idée. Là encore, vraiment, ce qui permet d'avancer et de proposer des choses plus précises, c'est la connaissance des bactéries, une sélection des souches bactériennes particulières, une façon de les cultiver aussi en laboratoire, de pouvoir les donner à la bonne personne au bon moment. Donc je parlais du cancer, mais sur le diabète, il y a des choses extrêmement intéressantes aussi, diabète de type 2, dont on s'aperçoit que ça pourrait ou le prévenir dans certains cas, quand c'est accompagné d'une obésité, ou sinon, encore une fois, aider les traitements à être efficaces plus longtemps, notamment la metformine, qui est un traitement de référence chez les diabétiques. On pense qu'en donnant certaines bactéries, on va pouvoir l'utiliser mieux et encore plus longtemps. On parle également des allergies, on parle de la dépression. Sur la dépression, c'est vraiment une façon de redéfinir complètement la manière dont nos bactéries agissent sur notre cerveau. Ce sont des choses qu'on a constatées en laboratoire, mais qu'on commence à pouvoir utiliser pour traiter des maladies.
Et dans ce cas-là, il s'agit de médicaments ou est-ce qu'il s'agit d'avaler comme ça indifféremment des probiotiques, prébiotiques
Disons qu'il y a trois grandes façons d'agir sur le microbiote. La première, c'est de donner des bactéries dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sélectionner des souches bactériennes et puis les donner, les administrer à un patient. Il y en a une autre qui repose sur les prébiotiques. Pour faire rapide, les prébiotiques, ce serait une sorte de nourriture dont certaines bactéries vont raffoler. En nourrissant tel type de bactéries, telle famille de bactéries, on va sélectionner, on va faire grandir certaines familles de bactéries dans les intestins. Et puis, il y a la dernière technique dont on a parlé, qui est la transplantation du microbiote. Et en utilisant ces trois techniques, ces trois approches, en fonction des maladies dont on a parlé, il y a des essais à chaque fois qui sont menés et qui peuvent apporter des résultats extrêmement intéressants, parfois très préliminaires encore, mais parfois aussi très avancés, par exemple sur certaines infections des intestins, quand elles sont
inflammatoires,
un type d'infection, il y a vraiment des résultats qui sont là de l'ordre du miraculeux. On peut quasiment utiliser ça, puisqu'il y a des essais cliniques qui ont été stoppés très rapidement, parce que dans le groupe des gens qui recevaient la transplantation de microbiote, les résultats étaient tellement bons que c'était même plus éthique de continuer à donner le traitement de référence précédent. Donc on a arrêté l'essai clinique et on a donné à tous ces gens qui étaient infectés des transplantations.
Parce que voilà. Ça marchait.
Donc il y a des choses vraiment intéressantes, concrètes, et d'autres qui sont encore à l'essai expérimental, mais prometteuses.
Vous faites le tri dans Science et Vie sur ces bactéries qui nous veulent du bien. Le microbiote est à la une et fait le dossier de Science et Vie dont nous avons, je vous le rappelle, amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question sur RFI, on peut même demander la lune et en version chinoise, s'il vous plaît, le groupe Carsi Cars et leur tube Zhong Nan Hai sur RFI. Nanhai du groupe chinois Car Six Cars sur RFI. Autour de la question de la face cachée de la Lune, Philippe Hénard-Réchaud dans Ciel et Espace, vous nous en dites un peu plus sur cette grande première, la mission chinoise Chang'e qui s'est posée sur la face cachée de la Lune, mais sans en rien dévoiler.
Ben oui, c'était quand même le 3 janvier dernier. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'Ultima Thule, c'était le 1er janvier. Là, c'était le 3 janvier, ça fait un petit moment.
Et
malgré ça, il faut dire que pour nos lecteurs qui essaient de suivre l'exploration de la Lune par cette sonde chinoise et le petit robot mobile qu'elle a déposé dessus, c'est bien difficile. Donc, on a décidé quand même d'essayer de rassembler tout ce qu'on pouvait. On a enquêté, j'ai essayé de poser des questions aux responsables spatiaux chinois, je peux vous assurer qu'ils ne parlent pas du tout.
Que ça... Ils disent rien, on n'en sait pas plus, non, enfin, ils en savent eux peut-être plus, mais voilà, nous on n'en sait pas plus.
Vous savez, le moment où l'engin s'est posé a réussi, c'était un succès quand même, on l'a su 90 minutes après. Quand le robot a commencé à rouler, on l'a su quelques heures après. On a vu des images, mais il n'y avait... aucune légende, c'est-à-dire on ne savait pas ce qu'on voyait, dans quel coin c'était, quelle était l'échelle de ce qu'on voyait. Donc on a essayé de regrouper tout ça. On y est arrivé quand même, tant bien que mal, parce qu'il y a quand même une communauté d'amateurs éclairés autour du monde qui parlent par réseaux sociaux interposés et qui arrivent à reconstituer les cartes. Alors, il y a par exemple un professeur de géographie de l'Université de l'Ontario, Phil Stook, que je connais bien, et qui, à partir des quelques pauvres images données par l'Agence spatiale chinoise, a réussi à retracer le parcours du robot. Alors, au cours de ces premières journées lunaires, vous savez que sur la Lune, la journée dure 15 jours, il y a 15 jours d'ensoleillement avant d'avoir 15 jours de nuit. Et donc, on a donné ces informations pour les deux premières journées.
Alors, mais est-ce qu'on sait s'ils n'en ont pas beaucoup ou s'ils ne veulent pas les donner?
Non, ils en ont, ça a très bien marché, les photos qu'on a, elles sont très belles. La maîtrise technologique est étonnante. Et par contre, quand on suit les conférences, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée, dont je fais écho dans l'article, les Chinois disent à l'envi, nous voulons collaborer avec les autres, nous explorons au nom de toute l'humanité. Il faudrait déjà commencer par... partager les photos avec les gens qui sont quand même passionnés par cet exploit technologique qui est réel. Alors, évidemment, il s'agit d'une mission surtout technologique. L'exploration, il y en a. Il y a des expériences scientifiques à bord, mais c'est encore de la technologie pour... explorer la Lune, peut-être avec des humains d'ici quelques années.
Pour en savoir plus, et pour percer un peu les secrets des Chinois sur la Lune, et ben il faut lire Ciel et Espace. On va évidemment, nous aussi, continuer en cette année lunatique, lunaire, de vous parler de notre satellite, et même vous permettre, chers amis auditeurs, de demander la Lune et de la viser avec un télescope. Nous sommes en train de vous concocter un jeu concours pour vous faire gagner une lunette télescopique sur le continent africain. On vous en reparle très vite, car pour l'heure, on braque nos projecteurs sur un tout nouveau genre de robot, les robots mous qui débarquent sur Terre, hein, c'est ça Caroline Tourpe, très, très bio-inspiré quand
oui,
même
très
ces robots mous.
Non, mais ce qui est intéressant c'est la soft robotique, c'est qu'on pense plus articulation, on pense mou, on pense adaptation et au lieu d'essayer d'éviter le contact qui est souvent indispensable pour un robot pour se déplacer, là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser, aller au contact, se transformer, se modifier. C'est des robots de toutes sortes et qui pourraient avoir des utilisations, des applications différentes, par exemple pour aller dans les décombres, chercher
oui, qui se faufile, il y a une robot, un robot chenille, un mini-robot pieuvre, un bras robotisé comme un lierre, enfin c'est...
Oui, c'est hyper divers. Vraiment, l'idée, c'est d'utiliser tout ce qui est mou et tout ce qui est justement physique des solides en lien avec cette matière molle. Et ça change beaucoup de choses.
Ça change tout, en fait, dans la robotique. Et c'est à lire, et c'est à découvrir, à regarder, parce qu'il y a des belles images dans Science et Vie. Alors, autre révolution scientifique à venir, c'est celle des éponges moléculaires. Carole Châtelain, dans Science et Avenir, vous nous faites découvrir leur formidable potentiel.
Oui, c'est un véritable phénomène. On les appelle les MOF. Hein. C'est une nouvelle
les
famille...
MOF.
De matériaux ultra performants et il y a déjà de par le monde plus de 54 000 structures qui travaillent là-dessus, le CNRS a des brevets et ça promet de révolutionner beaucoup de secteurs puisque ce sont des matériaux artificiels comme l'explique notre journaliste spécialiste Franck Daninos. Ils sont constitués à base d'ions métalliques et puis de molécules organiques et leur principale caractéristique c'est d'être très absorbant, donc de pouvoir faire des pièges très sélectifs et et avec ça, on peut désaliniser l'eau de mer, on pourra dépolluer l'air, on pourra
récolter de l'eau dans le désert.
C'est ce qui est déjà le cas. C'est déjà le cas, puisqu'il y a déjà des chercheurs de Berkeley qui ont réalisé une machine à désaliniser l'eau de mer qui ne nécessite aucune énergie, qui est transportable et qui produit 400 millilitres par kilo de poudre de MOF. Donc c'est vraiment un matériau très 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 prometteur et il faut pour l'instant faire baisser encore ses coûts de production pour qu'il parvienne à des applications grand public.
Découvrir le formidable potentiel des éponges moléculaires dans Science et Avenir. On va terminer avec un des prix de la recherche, Philippe Pageot, attribué à une chercheuse, Julie Louvrier et son équipe qui ont vu le loup. Loup y es-tu ? Pourquoi et comment il est essentiel de localiser la présence des loups aujourd'hui ?
Oui, effectivement, la gestion de la population des loups, c'est un enjeu majeur. Hein. Le président Macron, il y a encore quelques semaines, on parlait, il disait qu'il voulait, il fallait réguler ça.
Un enjeu majeur de conflit. Hein,
de conflit les... aussi. Mais alors, pour savoir, pour réguler ça, il faut savoir où sont les loups. C'est bien le problème. Alors, on a des signes de présence. Donc, il y a des milliers de personnes. Il y a 2000 indices par an de signes de présence de loups qui sont récoltés par des gens qui sont entraînés. Des indices qui peuvent être extrêmement peu fiables, comme disant, par exemple, j'ai vu de nuit à 300 mètres de ma voiture un loup. À ce moment-là, classe ensuite, mais si vous voyez des traces de loups dans la neige ou des excréments de loups, là, vous pouvez avoir des indices fiables. Mais à partir de ça, c'est évidemment extrêmement parcellaire, il faut construire un modèle. Et c'est ce que justement Julie Louvrier, qui a reçu le prix de la recherche en environnement, a fait. Elle a construit un modèle extrêmement fiable en coupant le territoire en cellules de 10 km par 10 km. Ensuite, elle a fait un modèle statistique. Pour combler le manque d'observation, elle a également, sur les zones faiblement prospectées, elle a trouvé des indices qui permettaient d'avoir une influence sur la probabilité de présence du loup ou pas.
Donc elle a réussi à modéliser, modéliser la présence
ça.
Des loups.
Et donc elle a, c'est un outil vraiment extrêmement, extrêmement intéressant, qui peut être appliqué d'ailleurs au lynx, puisque le lynx, c'est également une problématique importante. Et voilà.
Comment la modélisation peut servir à tout et même à éviter les conflits entre les loups, les lynx et les humains, c'est à lire dans la recherche. Merci Philippe Pageot, merci à Philippe Hénarejos, merci Caroline Tourbe et merci Carole Châtelain. On se retrouve, si vous le voulez bien, le mois prochain autour de vos magazines respectifs, donc La Recherche, Ciel et Espace, Science et Vie, Science et Avenir, magazine dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner. Amis auditeurs, ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Et puis je vous signale aussi la parution et la signature ce soir à Paris au CNAM d'une formidable BD, La Planète des Sciences, co-signée par mon complice Antonio Fischetti et le tout aussi génial dessinateur Bouzard, une encyclopédie universelle des scientifiques, comme vous n'en avez jamais vu, jamais lu, hilarante, précise et particulièrement croustillante. Ça s'appelle La Planète des Sciences et c'est à dévorer aux éditions d'Argo.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI ou sur l'appli RFI Pure Radio. Rendez-vous lundi, chers amis auditeurs et internautes, pour de nouvelles interrogations à partager ensemble avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Surtout, restez curieux à l'écoute de RFI, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. C'est bientôt l'heure, sur nos ondes, d'un nouveau journal.